Bonjour Didier Pilon, je suis heureux de vous retrouver dans les studios de Radio Fidélité en compagnie de Mathieu Ordonneau à la technique et nous allons aujourd'hui découvrir de la musique d'orgue par un des plus grands compositeurs français du XVIIe siècle qui était vraiment le spécialiste de l'orgue. Je veux parler de monsieur François Couperin. Alors il y a beaucoup de Couperin, c'est une famille, on va dire, c'est une dynastie de musiciens puisque l'oncle même de notre François Couperin s'appelait déjà François Couperin. Alors celui-là, c'est facile à retenir, c'est François Couperin, dit le grand, parce que c'est peut-être quand même celui qui a été le plus célèbre dans toute la famille des Couperins. Notre François Couperin, il est né en 1668, donc sous le règne de Louis XIV, et il est mort en 1735 sous le règne de Louis XV. C'est un grand compositeur, je vous l'ai dit, qui est le fils d'un autre compositeur qui s'appelait Charles. Et ce Charles-là, eh bien, c'était un jeune frère du tonton qui s'appelait lui aussi Louis. J'espère que vous me suivez. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours une solidarité familiale qui a fait qu'on a gardé en quelque sorte les postes au chaud. C'est-à-dire que lorsque le père de notre François Couperin qui est mort, qui s'appelait Louis, eh bien, comme il est mort prématurément, c'est le tonton qui était déjà un organiste célèbre, qui avait gardé, si vous voulez, les fonctions d'organiste à Saint-Gervais pour permettre, lorsqu'il aurait l'âge, eh bien, à son neveu, notre François Couperin le Grand, eh bien, de reprendre en quelque sorte le flambeau. Donc nous allons rester comme ça dans cette ambiance d'une messe solennelle, puisque c'est une reconstitution de ce qui était certainement la fête donnée pour la Saint-Louis. La Saint-Louis, on l'a fête le 25 août, et là, donc, on peut imaginer que c'est la reconstitution d'un office solennel pour la fête de Saint-Louis qui a eu lieu, eh bien, le 25 août 1687. Je vous propose de rentrer tout de suite dans cette ambiance d'orgue et de la grande musique de Louis XIV en écoutant tout simplement le début du Kyrie de cette fameuse messe solennelle pour la Saint-Louis. Voilà, cet extrait donc du début de cette messe pour la fête de Saint-Louis, roi de France, telle que l'avait composée notre François Couperin. Je vous le rappelle donc, alors qu'il n'avait finalement que 19 ans, puisque c'est une œuvre qui a été composée, il faut le dire, en 1687. Je rappelle que notre François Couperin, lui, était né, eh bien, à peine 20 ans plus tôt. Alors, notre jeune François, qui s'appelle donc Couperin dit le Grand, eh bien, il a appris la musique auprès de son papa, avant même de savoir lire et écrire, si bien qu'il n'a pas fait d'études générales, et il n'a pas beaucoup travaillé le français, puisqu'on a trouvé énormément de fautes d'orthographe dans ses courriers, mais le pauvre, eh bien, il va être très vite orphelin, puisqu'il va perdre très vite son papa. Mais je vous l'ai dit, on va garder pour lui la charge d'organiste de l'église Saint-Gervais, en attendant qu'il ait l'âge et l'expérience requise. Et justement, il va l'avoir, puisque c'est le grand compositeur très cher au cœur de Louis XIV, Michel Richard de la Lande, qui va écrire et qui va dire « Oui, le jeune homme est parfaitement doué, il peut prendre la charge qu'occupait son père avant lui et rester donc l'organiste titulaire des grandes orgues de Saint-Gervais ». Ce qui va arriver, et à partir de ce moment-là, eh bien, notre jeune François Couperin va véritablement beaucoup travailler, et c'est grâce justement à ce Michel Richard de la Lande, eh bien, qu'il va rentrer au service de Louis XIV. Et on sait que le souverain aimait beaucoup son compositeur et qu'il lui confiait de grandes responsabilités sans pour autant lui donner la possibilité, ce que rêvait le jeune Couperin, de devenir le claveciniste particulier de Sa Majesté Louis le 14e du nom, parce qu'on avait gardé là encore cette charge, eh bien, au fils du fameux Jean-Henri d'Anglebert. Mais Couperin va mener sa carrière finalement de musicien, de professeur très honnête, et il va véritablement énormément travailler dans les messes, travailler dans les églises pour pouvoir écrire justement toute une littérature que Louis XIV aimera particulièrement entendre. Alors, nous avons entendu donc le début, le Kyrie de cette messe avec un peu de chant. Il faut dire qu'on aimait bien alterner l'orgue et le chant au XVIIe siècle, qu'on ne pouvait pas utiliser l'orgue en permanence. Il y avait certaines fêtes où bien l'orgue était prohibé parce qu'on considérait que c'était trop festif, trop brillant. Mais on aimait bien, évidemment, pour les fêtes solennelles, utiliser finalement le roi des instruments, surtout lorsqu'on a la chance d'avoir un instrument qui sonne particulièrement bien. Donc je vous propose, après avoir entendu une partie du Kyrie, eh bien, de découvrir le Christe Eleison, et vous allez voir sur un récit de Cromorne. On a entendu tout à l'heure le plein chant et les anges. Eh bien là, vous allez entendre également un jeu particulier qu'on appelle la Cromorne et qui va nous donner justement le début du fameux Kyrie.
Thank you.
Donc un extrait, là encore, je vous l'ai dit, du Kyrie Eleison, extrait donc de cette messe pour les fêtes solennelles, et notamment la fête de Saint-Louis, roi de France, œuvre qui date de 1687. Oui, parce que ce qui est dommage, c'est que notre François Couperin dit le Grand, eh bien, il a écrit énormément d'œuvres religieuses, parce qu'il a été très longtemps l'organiste titulaire de l'église Saint-Gervais et de la chapelle royale. Il était l'organiste, en quelque sorte, de Louis XIV, et on a gardé très peu de littérature pour l'orgue, exclusivement cette messe-là et une autre qu'il a écrite lorsqu'il était jeune, alors que n'oublions pas non plus, François Couperin est peut-être plus connu encore pour toute l'œuvre, pour le clavecin qu'il a composé. C'est pour ça qu'il regrettait amèrement de ne pas être le claveciniste du roi. C'est le clavecin qui l'intéressait beaucoup plus et il a écrit énormément d'œuvres pour le clavecin. Et on peut dire qu'avec Jean-Philippe Rameau, ce sont Couperin et lui, les deux grands compositeurs français du règne de Louis XIV et de Louis XV qui ont véritablement écrit pour le clavecin. Quoi qu'il en soit, eh bien, à la fin de sa vie, notre compositeur a cessé progressivement toutes ses activités, tant à Saint-Gervais qu'à la chapelle de Louis XIV, et il est mort tranquillement le 11 septembre 1733, où il a été enterré à Paris. Et puis, vous savez, comme tous les Parisiens qui sont nés avant le début du XIXe siècle, ses restes ont été transférés dans les catacombes de Paris, puisque je rappelle que Napoléon III, voulant percer des grands boulevards dans Paris, avait fait détruire tous les cimetières parisiens. De sorte que, si vous remarquez bien, on n'a rien du XVIIe et du XVIIIe siècle français. Ils sont tous, les pauvres, enterrés dans les catacombes. C'était le seul moyen de pouvoir construire ces grandes artères qui longeaient, certes, les églises qu'on n'a pas touchées, mais en revanche, tous les cimetières aux alentours ont été détruits. Alors, je vous propose maintenant de changer. Après le Kyrie, nous allons partir au début du Gloria et nous allons avoir encore ce qu'on appelle le plein jeu, c'est-à-dire la quasi-totalité des jeux de ce très bel orgue dont je vais vous reparler dans quelques instants, puisque c'est un orgue qui est dans notre région. C'est l'orgue historique du Prytané National Militaire de la Flèche. Je vous en reparlerai, c'est un instrument qui est contemporain finalement de la littérature que nous entendons, puisqu'il a été réalisé en 1640. Donc vous voyez, on est entre le règne, on va dire, de Louis XIII et de Louis XIV. venons d'entendre encore un extrait, je vous le rappelle, si vous prenez cette émission en cours, pour la fête de Saint-Louis, de François Couperin, dit le Grand. Alors, dans l'interprétation d'Olivier Vernet, à l'orgue historique, je vous l'ai dit, Ambroise Levasseur du Prytanée National Militaire de la Flèche, et c'est l'ensemble Jacques Moderne, sous la direction de Jean-Yves Hameline, qui lui donne en quelque sorte la réplique, puisque vous avez entendu parfois ce chant qui fait penser à du grégorien. Mais on est au XVIIe siècle, hein, je rappelle, on est au siècle de Louis XIV, et on aime bien aussi avoir des réponses, en quelque sorte, à l'orgue. Alors, vous avez entendu justement un certain nombre de jeux sur cet orgue. Je voudrais vous parler un tout petit peu maintenant de l'orgue du Prytanée militaire. Le Prytanée est une institution très importante, puisque je vous rappelle que c'est Henri IV, en 1603, qui avait donné l'autorisation aux jésuites d'établir la maison mère de La Flèche en Anjou, un collège pour élever les enfants des domestiques de la maison du roi et de la reine. C'est-à-dire que c'était quand même une paroisse qui était directement rattaché à la famille royale. Et c'est d'ailleurs pour ça, si un jour vous allez visiter cette magnifique église du Prytanée, tout à fait grandiose dans sa dimension jésuite, eh bien, il y a le cœur d'Henri IV qui est conservé à la demande expresse du roi qui avait souhaité eh bien qu'il y ait une partie de lui-même dans cette belle église du Prytanée militaire de la Flèche. Donc c'est-à-dire que c'est une église importante. Il y a eu un premier orgue dont on ne sait pas grand-chose, mais les jésuites eh bien ont demandé dès 1637 à Jacques Nadreau, maître architecte, de construire cet instrument absolument prodigieux que nous entendons maintenant et qui nous donne la couleur finalement des orgues de l'époque Louis XIV. Vous savez que pour les organistes, c'est très important d'essayer de retrouver la couleur originelle des partitions. Alors c'est pour ça qu'on aime bien jouer sur des orgues historiques, et on peut dire que le Prytanée eh bien en est une orgue ou des orgues historiques, et puisqu'elles correspondent véritablement à la musique telle que l'avait composée François Couperin. Donc je vous propose de continuer notre promenade à travers cette belle messe et d'écouter là encore une partie sur un plein chant de ce Gloria. On est toujours, je vous le rappelle, avec François Couperin, dit le Grand.
Thank you.
donc toujours, je vous le rappelle, cette messe pour les fêtes solennelles de la Saint-Louis, roi de France, messe qui date de 1687, composée par François Couperin. Je rappelle, il n'avait que 19 ans à l'époque, mais déjà, il avait été remarqué par Michel Richard de Lalande et il allait bientôt devenir l'organiste privé de Louis XIV à la chapelle royale de Versailles. Et nous continuons parce que ce qui est intéressant, évidemment, dans cette messe, c'est d'entendre la manière dont le compositeur, et maintenant l'interprète Olivier Vernet, utilise les jeux de cet orgue. Cet orgue, je vous l'ai dit, qui est très important parce que lorsque l'église a été terminée d'être construite en 1622, on a tout de suite fait des grandes fêtes solennelles et notamment pour la France, la messe de canonisation de Saint-Ignace de Loyola, ce qui vous montre à quel point, ben évidemment, c'était le patron des jésuites, hein, à quel point eh bien, cette église, cette chapelle était véritablement extrêmement importante. Alors, on y a fait donc ce grand orgue dans les années 1640. Il a été évidemment plusieurs fois remanié, nettoyé. Il a fallu en effet faire ce qu'on appelle des relevages. Quand il y a trop de poussière dans les tuyaux, ben, faut tout refaire, faut revoir toute la mécanique. C'est assez compliqué. Et il y a eu également la dernière restauration qui a eu lieu, à ma connaissance, entre 1992 et 1995, sous l'autorité de celui qui était le grand spécialiste dans la région des orgues, je veux nommer monsieur Jean-Pierre de Cavel. Donc c'est un instrument historique sur lequel Olivier Vernet a plaisir, évidemment, à jouer cette messe pour les fêtes solennelles de Saint-Louis de Couperin. Nous avons entendu donc un extrait du Gloria. Bien, je vous propose de continuer toujours dans le Gloria. Après avoir entendu ce dialogue intéressant entre les trompettes, les clairons et les tierces du grand clavier et le bourdon, je vous donne tous les noms, hein, avec le larigot du positif, je vous propose maintenant d'écouter un dialogue sur la voix humaine. Et dans les orgues, généralement, dans les grands orgues, il y avait toujours ce qu'on appelait la voix céleste et la voix humaine. Eh bien, on va écouter maintenant un extrait donc de ce Gloria, le Cognam tu solus sanctus, sur la voix humaine. Voilà, donc toujours cet extrait de ce Gloria, donc de la messe solennelle pour la fête de Saint-Louis de François Couperin. Et pour terminer, justement, ce Gloria, parce qu'on ne l'écoute pas dans son intégralité, il y a énormément hein, de sections. Je vous propose d'écouter tout simplement l'amen de finale de ce Gloria, qui va nous permettre, là encore, d'entendre ce qu'on appelle eh bien, le dialogue sur les grands jeux. C'est-à-dire que là, on va voir la puissance, finalement, que peut développer l'orgue de cette très belle église du Prytanée militaire de la Flèche. Donc le final, cet amen final du Gloria, extrait donc toujours de cette même messe de Couperin, interprété, je vous le rappelle ici, par Olivier Vernet, à l'orgue historique Ambroise Levasseur du Prytanée militaire de la Flèche. Nous allons continuer dans cette messe qui nous fait, encore une fois, qui nous donne l'occasion d'entendre véritablement toute la richesse, la palette sonore de cet orgue. Et nous allons maintenant entendre l'offertoire. Alors l'offertoire, il est sur les grands jeux. Et évidemment, comme tout offertoire, il n'y a pas de parole. On est en train de prier. Je rappelle qu'évidemment qu'on est à la messe sous Louis XIV, c'est-à-dire que l'officiant, il est perpétuellement dos à la foule, hein, et ne se retourne évidemment que pour la communion. Donc l'offertoire se fait dans le silence le plus total. Le prêtre est en train d'officier quand l'organiste, lui, justement, en l'occurrence, pourquoi pas à l'époque, François Couperin, eh bien, interprétait, je dirais, une musique beaucoup plus, peut-être beaucoup plus scientifique et en même temps plus libérée, puisqu'il s'agit là de ne pas illustrer une parole de la messe, mais bien de permettre à l'offertoire de se dérouler, en l'occurrence ici, sur les grands jeux, toujours de l'orgue.
Thank you.
grâce à ce plein jeu, finalement, cet offertoire, eh bien, on peut découvrir toute la palette sonore et, encore une fois, toute la puissance de ce grand orgue du Prytanée militaire de la Flèche. Orgue, je vous le rappelle, qui est historique puisqu'il a été fabriqué en 1640, même s'il a été à de nombreuses reprises restauré. On peut dire qu'on a, dans l'Ouest, un des orgues baroques de l'époque Louis XIV, qui est peut-être parmi les plus intéressants. Olivier Vernet, je vous en parle un tout petit peu, c'est un musicien qui est né en 1964. Il a été tout de suite reconnu comme un très très grand interprète. Il est allé jouer, je dirais, à peu partout. Il a eu tous les prix qu'on peut imaginer également depuis le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il a même été lauréat de la Fondation pour la Musique de Yehudi Menuhin. Il a travaillé avec de très nombreux orchestres et il est régulièrement intervenu également dans le cadre de la Folle Journée de Nantes. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que j'avais acheté ce disque, puisqu'il s'était produit, justement, et j'avais entendu, en quelque sorte, ce récital à l'occasion, alors je ne sais plus quelle année, de cette Folle Journée qui se déroulait en région, et notamment dans la ville, bien sûr, de La Flèche. Alors, je vous propose de retrouver tout de suite Olivier Vernet, de retrouver l'orgue historique du Prytanée militaire de La Flèche pour découvrir la suite de cette messe qui, je vous le rappelle, a été composée vraisemblablement en 1687 par François Couperin dit le Grand et qui a été, en quelque sorte, restituée, tout un travail de musicologie par Olivier Vernet pour nous donner un peu une idée de ce que c'était la fête de la Saint-Louis lorsqu'on la célébrait du temps de Louis XIV. Alors, nous allons continuer donc après l'offertoire. Je vous propose de rentrer un peu dans le Sanctus et de découvrir le Sanctus Dominus qui nous permet là encore d'entendre ce qu'on appelle le récit de Cornet avant de découvrir tout à l'heure la Cromante. Donc tout de suite, le récit de Cornet, extrait du Sanctus de cette messe pour les fêtes solennelles de la Saint-Louis. Nous avons entendu encore l'ensemble Jacques Moderne sous la direction de Jean-Yves Hamelin qui interprétait donc cette partie chantée de cette messe à l'usage ordinaire des paroisses pour les fêtes solennelles et en l'occurrence pour la fête solennelle de Saint-Louis de M. François Couperin dit le Grand qui encore une fois eh bien, était à l'honneur dans cette émission. Si vous n'arrivez que maintenant, eh bien, vous écouterez la fin de cette messe puisque je vous rappelle qu'en compagnie de Mathieu Ordonneau à la technique, eh bien, on vous présente donc cette messe pour la Saint-Louis en 1787, tel que l'avait composé François Couperin dit Legrand. Je vous propose, avant de revenir un tout petit peu